pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix et Livre. On commence comme toujours par la première phrase d'un roman culte. J'ai choisi La Métamorphose de Kafka. Voici donc la première phrase. En se réveillant un matin après des rêves agités, Gregor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Et maintenant, Gregor va devoir se débrouiller avec ça. C'est pas facile comme ça du jour au lendemain. C'est très court, La Métamorphose, et c'est un grand texte sur la différence et le jugement d'autrui. Des romans, nous en découvrirons beaucoup d'autres chez la chanteuse Jeanne Chéral. Elle nous a ouvert les portes de sa bibliothèque. L'équipe des libraires de l'émission se tient prête pour de bonnes idées de lecture et nous terminerons avec la chronique jeunesse de Victor Dolande. Mais d'abord, c'est l'invité. La Voix est Libre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est Libre.
Nicolas Carreau.
Bonjour Valérie Tongkyong.
Bonjour Nicolas.
Après votre fresque Par amour, vous revenez avec Les guerres intérieures chez Jean-Claude Lattès. On présente les personnages d'abord. Pax, pour commencer, il est comédien, mais pas que, faute de trouver assez de travail dans sa branche.
Oui, en fait, c'est un comédien qui est assez frustré. Il a connu un certain succès populaire dans des séries télévisées populaires, mais lui, il estime qu'il n'a jamais reçu la reconnaissance qu'il mérite, celle du cinéma. Et puis, eh bien, pour boucler ses fins de mois, il est obligé, contraint de faire des formations par le théâtre en tant que comédien, justement.
Dans les entreprises, quoi.
En entreprise, exactement.
Et puis, il y a Emmy Shimizu. Qui est-elle ?
Alors, Amy, bien, c'est une. Elle est responsable des risques psychosociaux en entreprise. Elle est donc chargée de la sécurité de l'environnement, du bien-être des employés dans une entreprise de déménagement. Et c'est comme ça qu'elle va évidemment faire la rencontre de Pax. Mais c'est une femme qui est assez particulière, ouais. Car elle est franco-japonaise. Et ça va être un point assez important pour ce personnage, pour nous. Car elle a longtemps été en quête d'identité. C'est une femme qui s'est construite en se protégeant un petit peu justement à la japonaise, héritant de son père cette armure.
C'est ça. Et en plus, elle a quelque chose d'assez caractéristique. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous vouliez la dessiner, enfin appuyer sur ces traits de caractère-là, mais elle a quelque chose de moyen. Je vous lis. Emi Shimizu est issue de cette entité insolite et autosuffisante. Il était écrit là, dans cette histoire, qu'elle décevrait ses deux parents, ne pouvant être à la fois le yin et le yo. Enfant, elle ne se passionnait ni pour les motos ni pour les mathématiques. Elle était bonne élève, sans être excellente, manquait d'assurance et de répartie, en particulier face à sa camarade de classe qui répétait les discours teintés de xénophobie entendus au journal télévisé à une époque où le Japon se dressait en ennemi économique. Elle n'a pas d'autre particularité que ça, en fait, quoi. Et c'est ça, ça la mine aussi, d'une certaine manière.
Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est un peu un point commun qu'elle a avec Pax Monnier. Elle est dans cette catégorie de personnes un peu moyennes, qui ont du mal à se distinguer. Elle est l'enfant d'un couple puissant, comme on le voit dans cet extrait, des parents avec de très fortes personnalités. Et pour elle, eh bien, il est difficile de trouver sa place dans ce monde.
Bon, et le roman commence par Pax, donc. Un jour, son agent l'appelle. L'un des plus grands réalisateurs américains veut lui faire passer un essai. Il a juste le temps de rentrer chez lui et je vous laisse raconter la suite.
Et oui, donc il va partir, enfin, il veut aller enfiler une veste, évidemment, il veut se présenter au mieux pour ce casting qui est la chance de sa vie. Et pendant qu'il se change chez lui, eh bien, il va entendre des bruits suspects qui proviennent de l'étage supérieur. Mais bien évidemment, alors que quelqu'un d'autre se poserait la question d'aller se renseigner, est-ce que tout ça est bien normal, eh bien lui, il va avoir peur d'être en retard et de rater cette chance, peut-être la chance de sa vie. Et donc, il va filer à son rendez-vous sans aller s'informer de ce qui se produit vraiment.
Et alors là, c'est très bien fait parce qu'il entend des cris aussi. Et en fait, très clairement, c'est une lutte, ce qui se passe en haut. Il y a une agression, il y a quelque chose, quoi. Et il fait ce que beaucoup de gens font, ce que tous nous faisons, dans des circonstances peut-être moins extrêmes, mais il se ment à lui-même terriblement.
Oui, tout à fait. Il va se raconter une histoire. Comme il ne peut pas accepter que c'est une lutte et donc il devrait intervenir, eh bien non, il va se dire que c'est un déménagement ou bien peut-être un couple qui est en train de se disputer. Enfin, il va trouver 100 explications, mais va se convaincre assez facilement qu'il peut s'autoriser à partir à son rendez-vous.
Enfin, ouf! Bravo Pax, il a réussi quand même à se rendre au rendez-vous, mais maintenant il va falloir vivre avec ça. Parce que quand il rentre...
C'est très compliqué parce qu'effectivement, il rentre et là, il découvre la vérité. On lui apprend que son voisin, qui est un jeune étudiant de 19 ans, a été grièvement blessé à la suite d'une agression très très violente. Et donc, il va en effet devoir affronter cette situation étrange, d'avoir ce rendez-vous qui s'est très bien passé. Donc, la perspective d'une nouvelle carrière peut-être, tout un avenir qui se dessine, plein de promesses, mais construit sur quoi ? Sur ce fait divers. Et bien entendu, il est rongé par l'idée qu'il aurait pu intervenir et sauver ce garçon.
Et tout le roman se construit autour de cette culpabilité. On va y revenir. Mais d'abord, donc, il rencontre ensuite Emi Shimizu. C'est un coup de foudre. Et avant d'en dire plus, je veux bien que vous nous parliez de cette rencontre entre les deux, parce que j'ai senti en vous lisant que ça vous plaisait d'écrire ça. Je me trompe peut-être, hein, mais une rencontre amoureuse, finalement, c'est ce qui reste le plus romanesque. Hein.
Oui, mais bien sûr, toujours. Et puis, ce qui est très intéressant dans cette rencontre, pour moi, c'est que c'est l'alchimie qui se produit entre eux, qui est immense, eh bien, elle est liée au fait que chacun des deux vit en fait un moment de détresse et de solitude intense. Et cette détresse et cette culpabilité, puisque chacun des deux vit une culpabilité qui est liée en fait au même événement, mais ils ne le savent pas encore, eh bien, c'est ça qui les rapproche. Vous savez, quand on traverse des périodes comme ça de grande fragilité, de grande vulnérabilité, eh bien, je crois qu'on a des antennes qui cherchent l'épaule sur laquelle s'appuyer, et c'est ce qui leur arrive à tous les deux simultanément. Chacun des deux cherche l'épaule et croit l'avoir.
Mais vous décrivez très bien, je trouve, ce qu'on appelle un coup de foudre, en fait, mais cette alchimie immédiate, quoi. Ce sont des gestes, ce sont des pensées, c'est un peu tout ça ?
C'est quelque chose qui est, oui, de l'ordre un peu de la chimie, et puis aussi de nos attentes les plus intimes, qui fait que lorsque la personne apparaît, celle-là, plus que n'importe qui d'autre, eh bien, tout se brouille. Et on sent que tous nos repères changent pour proposer un autre avenir. C'est une promesse, c'est quelque chose d'intense. Et moi, j'aime effectivement regarder ce moment où chacun des deux est emporté par quelque chose qui le dépasse et pressent que sa vie va partir dans un sens tout à fait différent.
Je vous pose aussi la question parce que je sais que vous êtes une passionnée de psychologie et de neurosciences. Est-ce que vous avez fouillé un peu là-dedans, dans la littérature scientifique, sur cette espèce d'alchimie ? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Pourquoi cette personne-là plutôt qu'une autre, puisqu'ils se sont à peine parlé encore ?
Oui, alors effectivement, il y a des mécanismes chimiques qui entrent en jeu. Mais là, pour ces personnages-là, j'ai plutôt aimé, et il s'agit également de psychologie, mais regardez comment, en fait, ce sont deux culpabilités qui se parlent, ce sont deux espoirs aussi qui se parlent. En fait, il y a une concordance entre l'un et l'autre, entre chacun, les regrets, chacun regrette beaucoup quelque chose et chacun espère beaucoup autre chose.
Alors, on ne l'a pas encore dit, mais effectivement, il y a quand même un gros problème dans tout ça, c'est que le voisin du dessus de Pax, donc qui s'est fait agresser, c'est le fils de Emi Shimizu. Comment on fait avec ça ? Eh bien, on y revient dans un instant avec Valérie Tonkyo.
La Voix est libre. Nicolas Caro.
Retour dans La Voix est libre avec Valérie Tonkyong pour son nouveau roman Les guerres intérieures chez Lattès. L'histoire de Pax, un comédien qui rentre chez lui, qui doit se dépêcher parce qu'il est attendu à un casting chez un grand réalisateur américain. Il entend du bruit au-dessus de chez lui et il se dit qu'il n'a vraiment pas le temps d'intervenir, même s'il pressent quand même qu'il se passe quelque chose de très grave au-dessus. Il va à son rendez-vous. Quand il rentre, il s'aperçoit que son voisin du dessus, un jeune étudiant, s'est fait agresser très très violemment. Il rencontre ensuite Emi Shimizu. Il tombe fou amoureux d'elle et il se trouve que Emi Shimizu est la mère du jeune garçon qui s'est fait agresser. Mais ce qui est terrible, Valérie Tonkyong, c'est que, évidemment, Pax, d'abord, ne le sait pas tout de suite, et surtout, ne va pas lui dire.
Évidemment, il est face à un dilemme terrible. Il est donc déjà très amoureux et c'est réciproque. Lorsque cette femme lui dit, avant qu'on aille plus loin, il faut que je te dise que quelqu'un prend beaucoup de place dans ma vie et c'est mon fils qui a été très grièvement blessé. Donc là, tout s'éclaire pour Pax. Évidemment, il ne va rien dire à Amy. Il est sous le choc, mais surtout, il comprend immédiatement que s'il parle, il va ajouter de la souffrance à la souffrance, car annoncer à cette femme que l'homme dont elle est tombée amoureuse et qu'elle a mis dans son lit est celui qui aurait peut-être pu sauver son fils, c'est quelque chose d'insupportable alors qu'elle commence enfin à relever la tête. Et d'un autre côté, eh bien, s'il se tait, ce qu'il va faire, en tout cas au départ, s'il se tait, eh bien, ça veut dire vivre jour après jour en soutenant le regard de la femme qu'il aime et bientôt donc de ce fils qu'il va bien devoir rencontrer, sans leur dire ce qu'il en est et quel rôle il a joué. Donc c'est un dilemme terrible et c'est un étau qui va se resserrer jour après jour, évidemment, car chaque jour qui passe, eh bien, cette femme, Amy, et son fils vont s'appuyer de plus en plus sur lui, Pax, et évidemment, donc, chaque jour qui passe, lui va s'enfoncer dans le mensonge.
C'est une perversion de penser à ces choses-là, quand même. Vous êtes allé loin.
Oh, mais ça arrive très souvent dans la vie, vous savez.
Mais justement, je voulais en venir, c'est là où je voulais en venir. Comment vous en êtes arrivé à cette intrigue-là? Je sais qu'il y a une expérience que vous avez vécue.
Il y a un point de départ, oui, il y a un point de départ tout à fait personnel, puisque mon fils a été agressé dans mon immeuble il y a quelques années et un voisin est passé, n'est pas intervenu. Et évidemment, là, ça m'a beaucoup questionnée et je me suis immédiatement, j'ai immédiatement pensé que j'écrirais sur le sujet. Il fallait que je comprenne comment une personne qui était ni meilleure ni moins bien que moi, que je croisais tous les jours, à qui je souriais et qui me rendait ce sourire, eh bien comment cette personne-là, donc moi quelque part, était capable de tourner la tête dans ce cas-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu étudier à la fois eh bien, cette lâcheté ordinaire, mais aussi la culpabilité qui en résulte, et puis l'onde de choc sur l'entourage.
Alors, vous n'êtes pas tombée amoureuse du voisin, hein ?
Pas du tout.
Mais ce qui détruit, alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre cas personnel, mais ce qui est très très dur à accepter pour Amy dans le roman, c'est la gratuité au fond de l'agression. Il n'y a aucun mobile. Et dans ce cas-là, comment on peut faire confiance à qui que ce soit dans la société si, sans aucune raison, on peut se trouver un ennemi?
Absolument, c'est très difficile à accepter pour elle et c'est très difficile, peut-être encore plus même, pour Alexis, son fils, parce que lui, ben, il a 19 ans et on lui a appris que la société avait des règles, des valeurs, qu'on recevait ce qu'on mérite, etc. Et donc, cette agression gratuite qui vient mettre par terre tous ses projets d'avenir, puisqu'il ne peut plus reprendre ses études, évidemment, il ne peut plus rêver du métier qu'il comptait exercer, c'est-à-dire celui de pilote, et bien tout ça, il doit y trouver un sens. Et ça n'en a pas. Et donc, ça va déclencher aussi chez lui une forme de culpabilité qui était un aspect intéressant pour moi à observer parce que c'est un aspect, c'est vraiment le fil rouge qu'on retrouve dans la victimologie chez toutes sortes de victimes. Qu'on soit victime d'une agression dans la rue, d'un viol ou de toute autre forme de violence, eh bien, c'est toujours ce qu'on retrouve, cette tentation d'expliquer absolument la violence de l'autre par quelque chose qu'on aurait pu faire, peut-être déclencher.
Et les trois personnages donc subissent le poids de culpabilités différentes, mais chacun nourrit une culpabilité personnelle. Qu'est-ce qu'on fait de cette culpabilité? On vit sous son poids ou on la jette?
Alors, on ne la jette pas, on ne se laisse pas écraser, mais d'une certaine manière, on va l'embrasser. Et ça se fait, heureusement, sans qu'on y pense quelque part, c'est quelque chose qui nous dépasse, parce qu'on est ainsi fait, nous les êtres humains, qu'on a ce système de valeurs. Si on sait qu'on a mal agi, ou en tout cas qu'on n'a pas agi de manière appropriée, on va éprouver le besoin de réparer d'une certaine manière. Alors, on ne peut pas revenir dans le passé, mais on ne peut pas non plus se regarder tous les matins dans le miroir et se dire « je suis la même personne ». Donc, on va changer. Et souvent, ça se fait malgré nous, quelque part. C'est une force qui est plus puissante que nous, mais qui fait que, et c'est ce qui va arriver à chacun de ces personnages, on change. Et on change en s'améliorant, parce qu'on change en refusant d'être donc cette personne et en essayant d'être quelqu'un qui va pouvoir, quelque part, compenser en apportant quelque chose d'autre au monde, puisqu'on a le sentiment quelque part d'avoir enlevé quelque chose. Voilà, on a mal agi, on a contrarié quelque part le pacte social quand on a détourné le regard, quand on a Et donc, on va se sentir le devoir, quelque part, on va se sentir en tout cas appelé, mais souvent de manière inconsciente, à rembourser cette dette. Et c'est ainsi qu'on va aussi, de la même manière qu'on est chacun des acteurs de lâcheté, où on a chacun des moments de faiblesse, on va être aussi chacun des héros. On va se montrer aussi parfois courageux. Donc tout ça, c'est un balancier. Et ce balancier-là, eh bien, c'est la culpabilité qui le génère. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Quand on le regarde de cette manière-là, on se dit, observons, acceptons cette culpabilité et voyons ce qu'elle va faire de moi.
Oui, alors je ne veux pas lui trouver des excuses, et vous trouvez des excuses à la culpabilité, mais moi, pour Pax, pour le personnage de Pax, le comédien donc, qui commet cet acte, ou plutôt qui commet ce non-acte,
oui.
Y a quelque chose de compliqué, parce qu'on se dit qu'une culpabilité chasse l'autre, c'est-à-dire qu'il est comme Amy, et c'est-à-dire que les deux ne sortent pas du lot. Et le jour où il a enfin le moyen de sortir du lot, bah, il faut qu'il en passe par là. C'est terrible ce choix quand même, ce dilemme.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est même plus un choix, c'est un instinct de préservation tout simplement. C'est pour ça qu'on peut effectivement le comprendre. C'est-à-dire qu'on a tous vécu ces moments où on a l'impression de vivre le moment le plus important de notre vie. Ou en tout cas, on a un enjeu qui pour nous est décisif et donc qui justifie tout et n'importe quoi. On l'a tous vécu. Et pour lui, effectivement, c'est le cas.
Puis on peut se dire que s'il manque son rendez-vous parce qu'il appelle la police ou parce qu'il prend le temps de monter, ben ensuite, il va le culpabiliser d'avoir manqué une occasion. Non, il y aura toujours une culpabilité.
Oui, c'est vrai aussi. Non, mais c'est surtout qu'en plus, il doit faire face au risque, à l'incertitude. Il ne sait pas ce que... Et c'est tout ça va lui traverser l'esprit, bien sûr. Il ne sait pas quel risque il prend s'il s'interpose aussi, s'il intervient. Et donc, ce n'est pas uniquement des culpabilités qui s'enchaînent, mais c'est aussi des calculs qui se font dans la tête de Pax, comme dans nos têtes à tous, en permanence, pour aboutir à des choix.
C'est une occasion, je l'ai compris comme ça, votre roman, cette culpabilité, c'est une occasion de se demander qui on est, mais est-ce qu'une mauvaise action ou une mauvaise non-action, en l'occurrence, peut nous définir ?
Nous définir, non, mais ce que vous dites est très, très juste, enfin en tout cas c'est effectivement ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est qu'elle permet de nous confronter, elle nous permet de nous confronter à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous voilà devant le miroir, et donc effectivement on va devoir apprendre à comprendre qui on est vraiment. Et ces trois personnes vont se découvrir grâce à cet événement et vont voir s'ouvrir un potentiel, un avenir qu'elles n'auraient pas eu sans ce dilemme et sans cette culpabilité et sans même ces blessures.
Et apprendre à se pardonner aussi peut-être, être un peu indulgent avec soi-même.
Oui, apprendre à se pardonner. Enfin, en tout cas, apprendre à être dans le non-jugement, c'est-à-dire à ne pas juger. Et je pense que chacun va l'apprendre à ne pas juger l'autre, puisque au fil de l'histoire, on va découvrir que finalement, chacun, effectivement, a des regrets, des choses à se reprocher, comme chacun a manifesté a eu des actes forts, généreux, etc. Donc, on apprend au fil du livre, et chacun d'eux va l'apprendre à ne pas juger l'autre.
Et toutes les culpabilités se dénouent à la toute fin du livre, je dirais même aux deux derniers mots. Mais on n'en dira pas plus, évidemment, pour ça, ouais. Pour savoir, il faut lire Les guerres intérieures chez Jean-Claude Lattès de Valérie Tongkyong. Merci beaucoup.
Merci
Valérie
beaucoup,
Tongkyong.
Nicolas.
Europe 1.
Dans un instant, c'est à vous de me dire quel est votre grand roman. Aujourd'hui, c'est Nastaran qui se prête au jeu. Elle est iranienne, mais elle vit en France et elle a découvert la langue française grâce à Alexandre Dumas. Elle nous raconte ça tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
De retour dans La Voix est libre. Chaque semaine, je vous demande quel livre a changé votre vie ou quel roman vous a marqué. Ça peut être un grand classique, un livre culte, un roman inconnu, tout me va. Cette semaine, c'est donc Nastaran qui nous appelle de Strasbourg. Bonjour Nastaran.
Bonjour Nicolas.
Je précise que vous habitez Strasbourg, mais vous êtes iranienne. Mais vous parlez un français impeccable, grâce notamment, m'avez-vous dit, au livre. Et un en particulier, quel est-il ?
C'est Les Trois Mousquetaires.
D'Alexandre Dumas,
ouais. Oui, Alexandre Dumas, bien sûr, parce que je l'ai lu plusieurs fois et je l'ai lu vraiment activement en prenant des notes, en trouvant les mots-clés. Donc, je l'ai lu plusieurs fois.
Et pourquoi vous l'avez lu plusieurs fois ?
parce qu'au départ, j'avais lu Joseph Balsamo à 14 ans. Après, j'avais envie de lire Alexandre Dumas, mais en français. Ah. Donc, j'ai commencé à apprendre le français. Et quand j'étais au niveau de licence, ça faisait que 3 ans que j'avais commencé le français. Et je voulais faire une étude sur les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas. Donc, pour mon mémoire, je devrais le comprendre bien. Donc, je l'ai lu plusieurs fois pour pouvoir faire ce petit projet de mémoire.
Mais vous l'aviez déjà lu en persan ?
Non, pas les Trois Mousquetaires. Joseph Balsamo, je l'avais lu en persan. Mais les Trois Mousquetaires, mon frère, il me disait que c'est très long parce que le traducteur, l'avait traduit la trilogie de Mousquetaires ensemble pour ne pas erroner les lecteurs. Mmh. Donc, il avait mis les Trois Mousquetaires 20 ans après et le Vicomte de Bragelonne dans un cycle qui s'appelait les Trois Mousquetaires. Donc, mon frère, il me disait, ah, c'est trop long, ça va te fatiguer. Mais après, un ami en Belgique me l'a envoyé en français et j'ai vu que non, c'est pas très long.
20 ans après, c'est la suite des Trois Mousquetaires. Et ensuite, il y a le Vicomte de Bragelonne. Et effectivement, tout compris, ça fait dans les 5000 pages quand même.
Exactement, 6000 pages, il me semble.
Et les Trois Mousquetaires, c'est déjà bien 600 ou 700 pages.
620, celui que moi je l'ai lu, 625 pages. D'accord. Ça, je me rappelle très très bien.
Alors, on rappelle quand même, c'est D'Artagnan, le jeune D'Artagnan qui quitte son village et qui part à Paris et il va rencontrer Athos, Porthos, Aramis et il va devenir mousquetaire, il va leur arriver plein d'aventures. Qu'est-ce qui vous a plu à vous dans les Trois Mousquetaires ? Au-delà de la langue de Dumas, qu'est-ce qui vous a plu dans l'intrigue ?
Dans l'intrigue, c'est un peu la neutralité de Dumas parfois. Il a des personnages sympathiques et des personnages antipathiques, mais il est souvent neutre. Même D'Artagnan, qui est un personnage sympathique pour les lecteurs ou pour Dumas, quand même, il a des défauts.
Oui.
Mais le personnage, par exemple, de Milady, que je l'adore vraiment beaucoup, beaucoup plus que les autres.
Milady, qui est la méchante, en fait.
Exactement, elle est la méchante, mais elle n'est pas devenue méchante comme ça d'un coup. Oui. Elle a subi des problèmes pour devenir méchante, mais quand même, hein, c'est ce mélange de bien et mal et le combat entre le bien et le mal qui est quand même un peu naturel.
Dans votre message, quand on a parlé du livre que vous alliez évoquer, vous m'avez dit que vous l'avez lu 15 fois, Les Trois Mousquetaires.
Oui.
Alors moi, je l'ai lu souvent parce que c'est un de mes livres préférés aussi, mais 15 fois quand même, vous n'êtes pas lassé.
Non, mais maintenant, parfois, je reviens après 20 ans. Je reviens parfois, je relis certains passages. Pour certains passages, je les lis encore plus. par exemple, les 5 jours de captivité de Milady, ça, je les lis encore plusieurs fois.
Ah, ça, c'est votre passage préféré ?
Oui, c'est mon passage. Le secret de Milady et ses 5 jours de captivité.
Ce qui est bien avec Les Trois Mousquetaires et Dumas, c'est que c'est très chapitré. Et les chapitres sont
exactement.
Finalement assez courts. Il y a beaucoup de chapitres, forcément.
Oui, 52 dans Les Trois Mousquetaires.
Et quel est votre mousquetaire préféré ?
Pour les mousquetaires préférés, je pense que c'est Athos.
Ah, vous êtes plus Athos dans l'esprit, dans votre personnalité ?
Oui.
D'accord, donc vous êtes très classe, sobre, voilà, c'est ça ?
Je ne sais pas, j'essaye d'être sage. Je ne suis pas sûre que j'en suis ou pas, mais j'essaye un peu de ressembler, réfléchir. Mais j'en suis pas toujours, je réussis pas souvent.
Moi, j'avoue que je suis plutôt D'Artagnan, avec les défauts qui vont avec.
Oui. Ça, c'est le complet des trois. Je pense que D'Artagnan, il a de chaque personnage, il a pris le côté positif et il est le complet de trois autres.
Merci beaucoup, Nastaran. Donc, les Trois Mousquetaires, merci beaucoup pour cet hommage au grand Alexandre Dumas. Merci, Nastaran.
Merci, Nicolas.
À bientôt.
Merci, à bientôt. Bonne journée.
Au revoir. Europe 1. Et si vous aussi, vous voulez partager le livre au centre de votre bibliothèque, celui que vous avez lu plusieurs fois, qui vous a marqué, qui vous a changé, que vous offrez, écrivez-nous. Il existe plusieurs moyens. Envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone et le livre dont vous voulez parler à l'adresse livre@europe1.fr. Sinon, un message sur la page de l'émission ou vous me contactez directement via Twitter. Nous attendons vos bonnes idées. Dans un instant, encore des livres, nous partons visiter la bibliothèque de la chanteuse Jeanne Chéral. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est Livre.
La Voix est Livre continue, il est temps de quitter un peu ce studio. La chanteuse Jeanne Chéral vient de sortir son nouvel album,
l'an 40. Je m'étais dit qu'avec les paroles de ses chansons, elle devait forcément avoir bon goût en matière de littérature. Et ben, je ne m'étais pas trompé. Bonjour Jeanne Chéral.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous. On est à Paris, dans votre appartement, au 6e étage, donc il y a quand même une vue, hein, même s'il y a un vis-à-vis, il y a des immeubles en face.
Là, c'est dégagé.
On est dans la cuisine, mais c'est une cuisine ouverte et donc on peut voir le salon. Et manifestement, vous avez des enfants, puisqu'il y a un train en bois qui est au milieu du salon.
Trône, très attention. Qui prend toute la place.
On peut glisser facilement, on va faire attention. Et puis il y a des guitares un peu partout sur les murs. Il doit y avoir un piano quelque part caché là-bas, j'imagine.
Tout à fait.
Voilà, on est bien chez vous. Et là, on est dans la cuisine, donc. Et il faut qu'on commence par un livre qui m'a interpellé tout de suite et qui était sur le plan de travail, qui s'appelle « À Cali Cochon » de Anthony Brown, qui est manifestement un livre pour enfants. Qu'est-ce que c'est ?
Ouais, c'est un livre pour enfants dont j'ai entendu parler par le biais de Titiou Lecoq, qui est une journaliste féministe que j'adore. Elle en parlait sur Twitter et en fait, je l'ai acheté par curiosité et aussi pour le lire à mon fils. Je voulais le lire une fois avant pour voir ce que c'était. Et en fait, sur la couverture, on voit une maman qui porte sur son dos un papa et les deux fils. Enfin, elle porte tout le monde, en fait. Et c'est vraiment la charge mentale expliquée aux enfants. Et l'histoire, c'est un livre qui date des années 80 en plus, qui est pourtant très contemporain.
Ah oui, la charge mentale, on en parle depuis 2-3 ans seulement.
Ouais, bah ouais, ouais. Mais et en plus, c'est un homme qui l'a écrit et dessiné, c'est vraiment super. Et donc, c'est une famille dans laquelle la maman fait tout, elle fait la cuisine, elle fait le ménage, et en plus, elle travaille. Et quand elle rentre le soir, elle prend des ordres de la part de son mari et de ses deux fils, et un jour, elle disparaît. Et là, en fait, c'est la catastrophe et ils se transforment en cochons parce qu'ils ne savent rien faire et ils ont qu'une... En fait, ça finit bien parce qu'ils n'ont qu'un souhait, qu'un désir, c'est que maman rentre, maman revienne pour tout faire. Et en fait, elle revient, mais la situation va changer et on voit à la fin, voilà, papa se met à faire leur passage.
Même la vaisselle.
Monsieur Porchon lave la vaisselle, Patrick et Simon font leur lit, enfin voilà, tout change et je trouve ça vraiment super, quoi. C'est une belle histoire, c'est rigolo.
Ça fait dessin un peu années 50, années 60.
Ouais.
Bon, il y a d'autres livres avec moins d'images à côté.
Oui, il y a des petits ours bruns.
Ah bon, ils sont où ?
Non.
Ah ben, il est là, votre fils, il a une grande photo, là, voilà, magnifique. Juste à côté de Charlie Hebdo, les 20 ans, toutes les unes de Charlie Hebdo. Il y a des beaux livres, là.
Ouais.
Vous voulez regarder ces beaux livres-là ou c'est des livres que vous aimez avoir, mais
ouais,
que vous prenez rarement le temps de
Il y en a un que je regarde tout le temps, c'est celui-là, qui s'appelle Exactitude. C'est je ne sais plus comment j'ai découvert ça. C'est un livre de photos où, en fait, à chaque fois, on a des planches de 20 photos de personnes qui ont été prises en photo dans la rue, qui correspondent à un cliché, enfin à une image, qui ont des looks exactement pareils, alors que c'est des gens qui se connaissent pas, quoi.
Ah ouais, là c'est un homme noir avec une chemise de couleur unie et une cravate à motif,
ouais,
et il y a 19 autres, donc dans le même style.
Ouais. Je trouve que c'est un super beau livre sur le conditionnement et sur le fait de jamais être tout à fait. Voilà, c'est fou.
Ah là, c'est un homme blanc tatoué, ouais, avec un jean et un Marcel blanc.
Mais en plus, les tatouages sont très... voilà, ils ont tout le bras tatoué, et tous, et leur Marcel Blanc.
Ça va être un travail de fou quand même pour les trouver tous.
C'est un travail de plusieurs années, enfin de recherche. Et je trouve ça fascinant sur l'image qu'on peut avoir de soi en ayant l'impression d'être vachement original, alors qu'en fait, on correspond complètement à des normes, à des courants, à des modes, quoi.
Là, il y a un livre qui attire l'œil quand même, c'est Les Fleurs du Mal, mais dans une très belle collection. En beau livre.
Les Fleurs du Mal, je l'ai toujours eu depuis le collège. J'en ai toujours une édition à la portée de la main.
Vous avez un poème préféré ?
La mendiante rousse, qui a notamment été chantée par Jean-Louis Murat, mise en musique par Jean-Louis Murat. Cette lettre à une mendiante rousse, ça s'appelle.
Et vous n'avez jamais eu envie d'en mettre un en musique, vous ?
J'ai fait ça, mais alors je sais plus lequel c'était, mais j'ai fait ça pour l'inauguration d'une bibliothèque à La Réunion, je sais pas, il y a 3 ans peut-être, et c'était une chanson inédite, mais je l'ai chantée une seule fois, et alors je saurais même pas la retrouver. J'ai dû l'enregistrer sur mon téléphone, mais elle s'est perdue, donc voilà, c'est des choses éphémères comme ça.
Bah, tant mieux en même temps. C'était juste
une chanson,
un instant comme
chasse
ça.
Chasse l'autre. Ouais, c'était un
c'est
instant.
Ça la poésie, non?
Ouais.
Et alors là, il y a une sorte de petite obsession qui se dégage.
Ah, il y a un petit hôtel.
Il y a oui, un hôtel à la gloire d'Annie Ernaux, qui est une grande écrivaine.
Ouais.
Et vous avez toute la collecte là.
Ouais, j'ai tout.
Et qu'est-ce qui vous plaît chez Annie Ernaux? Est-ce que vous pouvez nous la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas?
Ce qui me plaît tant chez elle, bah, c'est le regard qu'elle a toujours porté sur elle-même et sur la condition féminine. C'est une grande féministe, Annie Ernaux. Et elle a une façon de parler des femmes qui peut être froide parfois, chirurgicale, sans aucune complaisance, jamais. Et puis elle, j'adore sa manière de parler d'amour. C'est quelque chose qu'on a pu lui reprocher d'ailleurs, je pense, quand elle a commencé à écrire. On n'attendait pas d'une femme qu'elle écrive comme ça, qu'elle écrive sur l'amour, sur la sexualité, avec autant de froideur et de crudité peut-être. Mais moi, elle me bouleverse. Et puis, ce qui me plaît par-dessus tout chez elle, c'est qu'elle a vraiment fait de sa vie et de sa personne son matériau principal d'écriture. Enfin, je pense qu'elle a jamais dû écrire de fiction. Enfin, elle est toujours partie d'elle-même, quoi, de son propre vécu.
Et vous vous souvenez comment vous l'avez découverte, le premier livre que vous avez lu d'Annie Ernaux?
Je crois que c'est La Place. C'est un livre qui est ancré dans son enfance.
C'était un hasard ou on vous l'avait conseillé?
Oh, je ne me rappelle plus. On me l'a sûrement conseillé. Enfin, de toute façon, les livres, c'est comme ça. Hein. C'est...
Oh, parfois, on tombe dessus. Puis on a l'impression qu'on est le premier à le lire et que personne n'a jamais lu.
Oh, ouais, ça, c'est génial.
Ça vous est déjà arrivé?
J'ai pas d'exemple comme ça.
Et après, on se rend compte qu'en fait, c'est célébrissime. Et que...
Ouais. Ah si, quand j'étais ado. Bon, alors, non, mais c'est complètement ridicule.
Ah, bah, allez-y.
Mais quand j'étais en quatrième, j'ai lu Le joueur d'échecs de Stefan Zweig.
Oui.
En me disant, oh, faut absolument que je fasse découvrir ce bouquin.
Mais c'était alors, au programme.
Mais je sais pas si c'était.
Moi aussi, je l'ai lu en quatrième.
Eh ben peut-être alors.
À l'école.
Mais en tout cas, j'ai le sentiment en l'ayant lu, je m'étais fait une mission quoi. Mmh. Alors que voilà, tout le monde le connaît et tout, mais j'avais vécu un truc très très fort en le lisant.
C'est l'écriture, c'est.
Ce que c'est l'écriture et puis ce que je vais chercher, c'est le frôlement d'une certaine forme de folie, quoi. Parce que Zweig, il décrit très, très bien ça. On est sur le point de basculer dans la folie. Et puis, c'est un témoignage aussi sur la guerre, quoi. Sur la guerre, sur la torture mentale. Enfin, c'est vraiment très puissant.
Je vois qu'il y a des biographies de musiciens aussi. Il y a Gainsbourg, il y a Keith Richards. Enfin, là, c'est un beau livre sur Gainsbourg.
Pete Townsend. Oui, il y en a quelques-uns.
Quand on est comme ça, chanteuse, on va chercher des inspirations dans la vie des autres musiciens, ou alors c'est juste que vous êtes fascinée par eux?
Des inspirations, je pense pas. Mais non, mais j'aime bien des fois, j'aime bien lire des biographies des fois. Surtout des mecs comme ça, des mecs comme Keith Richards. Cette biographie qui s'appelle Life, elle est assez, ouais, assez drôle, quoi.
Très bien écrite, ce qui n'est pas toujours le cas des autobiographies, mais
c'est vrai.
Life, c'est aussi un grand livre.
Ouais.
Il y a quoi d'autre?
Elles sont pas mal à mon studio, en fait. Tout ce qui est bouquin, un peu musique, c'est là où je travaille plutôt.
Et Gainsbourg, ça vous va bien, je trouve. Pourquoi?
Bah, merci.
Non, je ne sais pas.
Bah,
pourquoi je vois une proximité? Vous en avez déjà parlé ou...
Pas trop.
Non, je ne sais pas pourquoi.
Mais... Alors là, cette biographie, c'est celle de Joan Sfar.
Mm-hmm.
Alors, est-ce que c'est...
Donc, elle est dessinée.
Peut-être de son film. Je ne sais pas. C'est peut-être le storyboard. Ou... Je ne sais même plus ce que c'est, ce bouquin. Mais en tout cas, je l'ai. Et je l'aime. Et je le mets en valeur.
Et vous aimez Gainsbourg?
Oui, bah, bien sûr.
Oh là là, j'adore ce livre de Jonathan Coe, La vie très privée de Mr. Sim. C'est un VRP qui est tellement seul qu'il tombe amoureux de son GPS, de la voix de son GPS, parce qu'il trouve la voix sexy.
C'est drôle parce que... Michel Leclerc, on a fait une adaptation au cinéma et je faisais la voix du GPS.
Ah oui?
Ouais. C'est marrant que vous en parliez.
J'ai pas vu l'adaptation, mais c'est un grand, grand livre en plus.
Ah ouais, j'avais adoré.
Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Vous l'aviez lu avant qu'on vous propose de faire la voix du GPS?
Ouais, je l'avais lu, je sais plus quand il est sorti, mais en tout cas, je connaissais pas très bien Jonathan Coe, mais j'avais acheté le bouquin, j'étais attirée par, je sais pas, par le pitch. C'est peut-être ma mère qui m'en avait parlé.
Et donc, vous avez fait la voix du GPS. Est-ce que vous nous feriez la voix du GPS? Vous pouvez nous demander de tourner à droite, s'il vous plaît.
Dans 500 mètres, tournez à droite.
Waouh, ça, c'est une voix de GPS.
Bah oui.
En face, je vois un gros volume avec l'œuvre complète de Françoise Sagan.
Qui s'appelle Léo.
Et votre attaché de presse juste en dessous. Françoise Sagan, c'est Bonjour Tristesse, c'est ça, c'est ce que vous avez, ça, vous l'avez lu ado à 17 ans.
Ah ouais, je l'ai lu plusieurs fois et c'est toujours. Je crois que c'est ses œuvres complètes peut-être.
Ouais, c'est la belle collection bouquins.
Voilà, enfin c'est.
Il y a tout dedans.
On voit ces titres là derrière qui sont des poèmes en soi, quoi. Bonjour Tristesse, Un certain sourire, Dans un mois, Dans un an, Château en Suède, Aimez-vous Brahms. Enfin c'est en soi c'est des petits voyages, quoi.
Ouais. Et Bonjour Tristesse, c'est quand même le plus bel incipit de toute l'histoire de la littérature, quoi. C'est la plus belle première phrase du monde.
Ouais, je la lis.
Ça vous ennuie ?
Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse.
Paf.
Le ton est donné.
Je vois Patti Smith, Just Kids.
Oui, bah ça c'est.
Vous avez rencontré Patti Smith ?
Non, je ne l'ai jamais rencontrée. Je suis allée la voir, je sais pas, il y a un mois peut-être, à l'Olympia. Je ne l'avais jamais vue sur scène. Et ça a été un éblouissement. J'ai tellement adoré l'aura de cette femme, sa puissance, sa générosité. Et puis on sentait qu'elle était hyper heureuse d'être sur scène. Et puis en plus, elle écrit divinement, quoi. Enfin, elle écrit tellement proche d'elle. Enfin...
Et vous n'avez pas voulu aller la rencontrer ensuite ?
Ben non. Enfin, j'étais à deux doigts de lui serrer la main. Mais non, des fois, c'est délicat hein, de rencontrer comme ça ces idoles. On a peur de déranger. Ouais. Et puis,
ou peur d'être déçu, peut-être ?
Ben là, non. Mais bon, de toute façon, on n'avait rien à faire de moi. Donc, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Mais enfin, je l'ai vu de près, quoi. Et, déjà, et ça m'a suffi. Et puis, je me suis nourrie de son énergie, quoi.
Ben merci beaucoup, Jeanne Chéral, pour cette visite.
Ben merci à vous, Nicolas.
Très inspirante. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1. De retour en studio, merci à Olivier Duval pour la prise de son. Et je vous rappelle donc le titre du dernier album de Jeanne Chéral, L'An 40. Restez là, les libraires de La Voix et Livre sont prêts. Ils ont apporté chacun un livre avec une mission, vous donner envie de les lire. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix et Livre.
Retour dans La Voix et Livre avec l'équipe des libraires. Ils défendent le livre au quotidien. Grâce à eux, les trottoirs sont bordés de romans aujourd'hui. Anne-Sophie Rouvelou est avec nous de la librairie L'Infini Comédie à Bourg-la-Reine, super librairie, et Christophe Daniel, immense librairie, la 25e heure, Paris 15e. Salut les libraires.
Salut.
Et bonjour Nicolas.
On commence avec vous, Anne-Sophie. C'est un polar déjanté, ça tombe bien, c'est votre spécialité.
Ouais, tout à fait. Alors, je vais essayer de ne pas rigoler tout le long de la chronique parce qu'il est vraiment il est drôle, mais à fond. Ça s'appelle Coup de vent. L'auteur, c'est Mark Haskell Smith. C'est paru chez Gallmeister. C'est traduit par Julien Guéry, parce que voilà, faut dire, hein, les traducteurs, quand même, avec le boulot qu'ils font. Donc, ouais, polar maritime et financier, complètement fou. Le point de départ, on est avec Neil, un personnage qui est plutôt mal en point. Il est sur un voilier à la dérive et il est si désespéré qu'il pense à manger ses peaux mortes et à boire sa propre urine. D'accord. J'invente rien, c'est la première phrase du livre. Voilà. Donc on sait que Neil, il travaillait dans une... C'est pas fini, hein. On sait que Neil travaillait dans une banque d'affaires à Wall Street et on voit aussi que sur le bateau, il est entouré de sacs remplis d'argent. Mais de toutes les devises imaginables, pardon. Il y a genre des dollars, il y a des euros, il y a des livres, d'accord. Il y a tout.
Il a piqué le magot, il est parti, quoi.
C'est ce qu'on pourrait croire au début, mais c'est pas exactement ça. Et donc Neil, il est désespéré, hein. Donc ben, à un moment, il va se dire, il faut bien que quelqu'un me remarque et vienne me sauver. Donc il va mettre le feu au sac de billets, sauf que ça met le feu au bateau. Voilà, donc ça, c'est le point de départ. Donc vous voyez, moi, je rigole déjà. Vous inquiétez pas, Neil, il va être secouru. Et j'essaie d'être précise parce qu'en fait... Comme tu as pu le croire, entre guillemets, Nicolas, on pense que c'est lui qui s'est barré avec le magot. Mais non, en fait, c'est un certain Brian qui est un loup de Wall Street, j'ai envie de dire, qui s'est barré avec le magot. Et Neil est un poursuivant. Et il y a aussi d'autres poursuivants, parmi lesquels il y a une jeune femme qui s'appelle Seo-Yoon Kim, qui est prête à se marier, en fait, qui couche avec tout ce qui bouge. Désolée, hein, je le dis comme ça, mais c'est vrai. Il y a aussi un autre détective freelance dans cette course-poursuite sanglante qui s'appelle Piet, qui est mon préféré, qui est accessoirement obsédé sexuel et tueur de sang-froid. Donc on a une espèce de galaxie de personnages complètement borderline sans arrêt, donc c'est à mourir de rire.
Tous à la poursuite du même type.
Ouais, tout à fait. Qui est parti dans les Caraïbes parce que bah, c'est plus simple pour échapper à la justice américaine. Mais il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a une critique sous-jacente et constante bah, du luxe, de la société des apparences, des nantis, et ça court comme ça en filigrane pendant tout le bouquin. Et en plus de ça, effectivement, c'est absolument jouissif à lire. Et bah, l'auteur, il a un style qui est direct et le sens de la phrase qui tue.
Ouais, ça a l'air chouette. Coup de vent chez Gallmeister. À vous, Christophe Daniel, avec un grand auteur aujourd'hui.
Un grand auteur, Richard Wagamese. Alors moi, je vais vous emmener dans l'Ouest canadien. Richard Wagamese, on l'avait découvert avec une magnifique première traduction, c'était Les étoiles s'éteignent à l'aube. Il y avait ensuite Jeu blanc, et malheureusement aujourd'hui Starlight, c'est le dernier livre écrit par Richard Wagamese. Et il faut savoir que le roman est inachevé. Il est mort avant d'avoir complètement terminé ce roman. C'est pas du tout un problème parce que l'écriture est suffisamment aboutie et les éditeurs ont fait un travail sur l'épilogue qui nous donne toutes les clés pour savoir comment se termine cette histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de Frank Starlight, donc le héros du premier titre de Wagamese, qui maintenant est devenu adulte, vit dans une ferme, sa ferme, avec un ami Rose. Il se partage le travail de la ferme et il a aussi une passion, il est photographe et il part pour des longs séjours dans la nature sauvage de cet ouest canadien pour faire des photos de la nature, des animaux. Il y a une poésie bouleversante dans toutes ces descriptions de nature. Et pour ce qui est de la trame du roman, il va faire la connaissance d'une femme qui fuit avec sa petite fille une vie d'enfer que lui mène son compagnon et le comparse de son compagnon. Donc il y a une traque parce que elle fuit, mais ce fameux Cadot et Anderson, les deux affreux, veulent absolument retrouver les deux femmes. Et elles vont se réfugier donc chez Starlight, qui va les amener à découvrir cette nature, à complètement l'appréhender et à se reconstruire à travers ce nouveau lien. C'est un très très beau livre sur la nature, mais sur l'être humain, avec une écriture, je le dis encore, d'une poésie vraiment admirable.
Super, donc on a dit Mark Haskell-Smith, Coup de vent chez Gallmeister, traduction de Julien Guérif, et Starlight, le dernier Richard Wagamese aux éditions Zoé, traduction de Christine Raguet, bravo à elle et merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Direction le rayon jeunesse maintenant avec Victor Dolande, à tout de suite.
Il était une fois.
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 Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Nicolas.
Et comme chaque semaine, on retrouve votre conseil littérature jeunesse. Cette semaine, vous avez choisi un roman intitulé Zoé Comet et l'incroyable histoire des trois chats de Monsieur Pompéi. On n'est jamais déçu avec vous pour les titres.
Ah bah oui.
Signé Adeline Deli Plateau.
Oui, c'est l'histoire d'une petite fille, Zoé, 10 ans dans 10 jours, vient juste de finir son année scolaire. Fini le CM2 à elle, les grandes vacances, la liberté. Enfin, pas totalement, puisque sa mère lui demande à elle et à son grand frère d'apporter tous les jours des provisions à Monsieur Pompéi, un vieux monsieur grincheux qui habite juste à côté de chez eux.
Ça va.
Oui, mais la corvée ne l'enchante pas vraiment, jusqu'à ce qu'elle rencontre les trois chats de son voisin bougon, Mo, Grabuge et Neko. Bah oui, parce que j'avais oublié de vous dire, mais Zoé adore les chats, c'est sa passion, elle rêve même d'en avoir un à elle, sauf que bien sûr, bah, sa maman, elle veut pas comme toutes les mamans, elles veulent pas de chat. Alors forcément, la perspective de câliner les trois chats du voisin rend la corvée tout de suite moins pénible, d'autant que Monsieur Pompéi lui promet de lui raconter l'incroyable histoire de ces trois chats.
Bah allez-y, racontez.
Bah oui, Monsieur Pompéi explique d'abord à Zoé comment les chats ont été domestiqués en Égypte il y a plus de 5000 ans, au temps des pharaons. Zoé, pendue aux lèvres de son voisin, elle ne perd pas une miette de son récit. Le jour suivant, elle arrive chez lui, il n'est pas là. Elle aperçoit Mo, le chat noir de Monsieur Pompéi. La suite, c'est Chantilly et Charlotte, élèves en CM1 à l'école d'Henri-Raymond, qui vous la lisent.
De l'autre côté de la porte, il y avait une lumière si forte que j'étais aveuglée. Les chats enfonçaient vers la lumière. J'ai tout de suite regretté de les avoir laissés partir. Comme j'apercevais le bout de la queue de Grabuge filer à toute allure, malgré mon éblouissement, j'ai couru après lui, sans perdre de vue le petit bout de queue gris. Soudain, la lumière s'est faite moins forte. Les trois chats s'étaient assis à quelques mètres de moi. J'ai avancé encore un peu pour les rejoindre.
« Bah alors, vous trois, vous êtes fous de courir comme ça !»
Mo m'a regardé. Grabuge a voulu escalader ma jambe. Je l'ai pris dans les bras et j'ai enfin regardé autour de moi. Ce que j'ai vu était incroyable. Incroyable.
Voilà, alors Zoé, voyage dans le temps, vous l'avez compris. Un jour en Grèce, un autre au Moyen-Âge. Ou au 19e siècle, au cœur d'une discussion entre Victor Hugo, Théophile Gautier et Mark Twain. Ouais. À chaque fois, il est question de l'histoire des chats. C'est un roman que les enfants peuvent lire à partir de 7-8 ans, sans problème. On ne décroche pas une seconde, on avale les pages pour en savoir plus sur cette folle aventure. C'est drôle, subtil et remarquablement raconté. Bref, un premier roman d'Adeline Daly Plateau que vous allez adorer, surtout si vous avez un petit faible pour les félins.
Et on rappelle le titre, Zoé Comet et l'incroyable histoire des trois chats de Monsieur Pompéi d'Adeline Daly Plateau, illustré par Célia Nils. C'est édité chez Gulfstream.
Exactement.
Merci Victor.
À la semaine prochaine Nicolas.
Salut. Europe 1. C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.